Jonas. Nous lirons dans le livre de Jonas, du chapitre 3, verset 10, au chapitre 4, verset 4. Nous sommes là à la fin du récit, et voici le résumé des épisodes précédents. L'Éternel a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour prêcher contre elle, car la méchanceté de ses habitants a dépassé les bornes. À ces mots, Jonas tenta de s'enfuir à Tarsis en bateau. L'Éternel causa des problèmes pendant le voyage. Jonas demanda à être jeté dans l'eau pour sauver le bateau et le reste de l'équipage. Aussitôt, un grand poisson l'avala. Jonas comprit qu'il avait tort et finalement le grand poisson le recracha sur la terre ferme. Il marcha 3 jours et alla prêcher le malheur aux habitants de Ninive. En l'entendant prêcher, les habitants de Ninive se sont repentis de leurs actes. Ici démarre notre texte au verset 10. Et si tu peux l'afficher, parfait. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas n'est pas content. Et dans un sens de la mesure qui lui est propre, il va même jusqu'à demander la mort. Ce qui se passe lui déplaît fortement, car rien ne se passe comme il l'a annoncé. Si on avait proposé un questionnaire de satisfaction à Jonas sur la mission proposée, son avis aurait été cinglant. Il est venu pour rien, il a prononcé des paroles vaines, il est à 800 km de chez lui, il a eu un voyage éprouvant, il prêcha la destruction de Ninive et Dieu, de son côté, se contenta de pardonner aux habitants. Peut-être vous avez déjà vécu cette situation où une personne vous demande un service ou une tâche à faire. Vous bûchez dessus pendant des heures pour réaliser quelque chose de vraiment bien. À la fin, votre commanditaire vous remercie poliment, mais vous informe qu'il a finalement changé d'avis et qu'il s'est débrouillé autrement. Dans le cas de Jonas, effectivement, Dieu a changé d'avis. Toutefois, il n'a pas changé ce qu'il est vraiment. Le fond de l'argumentaire du prophète est surprenant, et particulièrement pour un chrétien. Pas lui, nous. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Et alors, en quoi cela n'est-il pas une bonne chose ? Un Dieu miséricordieux et compatissant, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les hommes. Les chrétiens, depuis la mort de Jésus-Christ, bénéficient pleinement de la miséricorde de Dieu. C'est même le point de départ de la foi chrétienne. Pour sa part, le prophète Jonas a un problème avec la grâce de Dieu accordée à Ninive. L'explication la plus plausible et le fait que les païens ne devraient pas, selon Jonas, pouvoir être au même bénéfice que le peuple juif. En effet, l'alliance de Dieu avec son peuple a été faite envers Abraham, Isaac et Jacob, puis leurs descendants. Pourquoi un peuple qui n'est pas sous l'alliance d'Abraham aurait-il le droit de bénéficier de la même grâce que le peuple juif ? Le but de la prière de Jonas est de crier à l'injustice. Sa prière est égocentrique et Jonas ne profite pas de ce qui est réellement en train de se passer sous ses yeux. Sa prière est obscurcie par un manque de compréhension de la grâce universelle de Dieu. au lieu de venir se réjouir de la grâce de Dieu accordée aux hommes, il trouve une injustice dans le fait que l'Éternel ne met pas sa colère à exécution. Il rate le bénéfice de se réjouir de la grâce de Dieu donnée au peuple de Ninive. C'est ici, je pense, un des points fondamentaux de tout le récit du livre de Jonas. En tant que lecteur, nous voyons Dieu à l'œuvre dans ce qu'il fait de plus beau, de plus majestueux, peut-être de plus incompréhensible pour nous. Il pardonne. L'Éternel répond à Jonas : Fais-tu bien de t'irriter ? J'ai arrêté la lecture ici, mais il s'ensuit un autre récit, dans la suite du chapitre 4, où Dieu veut enseigner Jonas sur la grâce. Il est admirable de voir que, même si la prière de Jonas ne mentionne pas la grâce divine, l'Éternel va quand même agir envers Jonas. Il vient l'enseigner sur ce qu'il vient de faire envers le peuple de Ninive. Il en est de même dans nos prières individuelles et collectives. Est-ce que toutes nos requêtes, est-ce que toutes nos prières sont dans la volonté de Dieu ? Il y a peut-être des prières que nous faisons qui n'y sont pas exactement. Toutefois, nous croyons que sa volonté s'accomplira, même si ce n'est pas exactement ce que nous avions en tête. Jonas, lui, aurait préféré voir Ninive détruite et ainsi, d'une certaine manière, son travail récompensé. Le Seigneur a fait les choses à sa manière et c'est très bien ainsi. Dans la réalisation de nos prières, parfois cela va se dérouler comme imaginé. Dieu va ouvrir les portes pour un examen, guérir un proche, permettre à une situation compliquée de se débloquer. Dans ce cas, nous allons, je crois, nous réjouir de ce que Dieu fait dans nos vies. Nous allons le remercier et lui rendre gloire. Parfois, cela va se dérouler autrement. Et nous allons avoir l'impression que Dieu n'a pas entendu ou n'a rien voulu faire. Dans ce cas, il y aura peut-être quelque chose à comprendre sur la volonté de Dieu. J'insiste sur le « peut-être », car il y a malheureusement des situations où nous ne comprenons pas Dieu. Je vous renvoie notamment vers le livre de Job, ou même à la fin, quand Dieu lui-même prend la parole pour répondre à Job, nous ne savons pas la raison de toute cette souffrance infligée à Job. En ce qui concerne notre dialogue entre Jonas et l'Éternel, retenons ceci. La prière sert à comprendre la grâce de Dieu et à se réjouir de ce que Dieu fait. Pour poursuivre notre recherche de réponse à la question « Pourquoi prier le Seigneur alors qu'il a déjà décidé ce qu'il fera et ce qu'il ne fera pas ?» J'aimerais vous emmener maintenant sur un second texte. Il s'agit de la négociation d'Abraham pour le salut et la non-destruction de Sodome. Petit aparté, si vous n'êtes pas un lecteur assidu de la Bible, ne pensez pas que l'Éternel souhaite détruire toutes les villes du Moyen-Orient ancien. C'est simplement une coïncidence. Comme pour Jonas, avant de lire le passage qui se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 18, posons le contexte. Abraham est proche de Dieu. Une alliance a été faite et Dieu lui a promis une descendance au point d'être l'ancêtre d'une grande nation, Il lui a promis qu'il aurait un fils de sa femme Sarah. Tous deux sont maintenant très âgés. Notre texte commence ainsi au verset 20. Est-ce que tu peux le... Merci. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y aura-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de là, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. J'arrête ici la lecture de la parole de Dieu, mais le texte se poursuit par une négociation persévérante de la part d'Abraham jusqu'à atteindre l'accord de Dieu de ne pas détruire Sodome s'il s'y trouve 10 personnes justes. Ensuite, Dieu fait sortir Lot de la ville. Lot est le neveu d'Abraham. Il le fait sortir ainsi que sa famille, puis il détruit Sodome et tout ce qui s'y trouve. Le dénouement n'est pas aussi heureux que dans le récit de Jonas. La ville n'a pas réchappé à la justice de Dieu. Toutefois, il est intéressant de constater que nous avons deux récits de salut. Dans le livre de Jonas, il s'agit évidemment du salut de la ville de Ninive. Dans le second cas, dans le cas d'Abraham, de Sodome, plus en arrière-plan, nous avons le salut de Lot et de sa famille, qui réchappe à la justice destructrice de l'Éternel. Peut-être cela vaudrait-il une prédication sur le salut dans l'Ancien Testament, mais ce matin, c'est la prière qui est notre fil rouge. Concentrons-nous sur ce dialogue concernant la prise de parole de l'Éternel au verset 20, la question d'Abraham au verset 23, 24, 25 et la réponse positive et sans détour de l'Éternel au verset 26. La question d'Abraham est excellente. Il y a une telle liberté dans son dialogue avec Dieu, un profond respect de la personne de Dieu, du Seigneur de toutes choses. Il vient l'interroger avec une question qui est à la limite du rhétorique. Je ne sais pas dire si Abraham posait véritablement une question, mais on sent la stupéfaction dans son argumentaire quand il poursuit en disant « Tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire mourir le juste avec le méchant. » La prière d'Abraham est inscrite dans une connaissance poussée de la personnalité de l'Éternel. Dieu veut juger la ville à cause de sa justice parfaite et de son horreur du mal. À son tour, Abraham vient poser son argumentaire sur la justice de Dieu, en rappelant qu'il serait normal qu'il agisse selon la justice. La connaissance, la compréhension de la personnalité de Dieu est un élément fondamental de la prière d'Abraham. C'est elle qui sous-tend sa demande et la suite de la négociation. Par sa compréhension de la personnalité de Dieu, Abraham est conscient de l'action du Seigneur. Ce que Dieu fait lui est révélé. Il devient participant du salut de Lot, sans toutefois forcer la main à Dieu. Sa prière ne fait pas changer d'avis l'Éternel, elle vient inclure Abraham dans la réalisation de la volonté de Dieu. Le dénouement de toute cette affaire nous est donné au verset 27 et 29 du chapitre 19, donc le chapitre d'après. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où s'était tenu, où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversera les villes où Lot avait établi sa demeure. Le Seigneur se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Ce verset met en valeur la prière d'Abraham. Bien que fondamentalement la volonté de Dieu est de traiter le juste et l'injuste différemment, ce verset nous rappelle qu'Abraham a prié pour Lot. Il nous rappelle qu'il a intercédé en sa faveur. Toutefois, la volonté de Dieu s'est appliquée et Sodome a été détruite. Tout comme pour Abraham envers Lot, l'intercession pour le salut de nos proches est un sujet récurrent dans nos prières. Plus généralement, l'intercession pour nos proches ou nos moins proches est un sujet de prière régulier dans nos différents moments de prière. Aussi, nous croyons que Dieu contrôle tout, et c'est entre autres à cause de cela que nous le prions. Mais pourquoi le prier pour nos proches si notre prière, aussi bonne soit-elle, ne pourra pas faire venir changer la volonté de Dieu? Abraham, par sa prière, a été inclus dans la réalisation du salut de Lot. Nous aussi, nous pouvons prier que la volonté de Dieu s'accomplisse pour nos proches. Par exemple, nous pouvons lui demander d'aider nos amis ou notre famille à le découvrir. Ainsi, quand Dieu agira, nous serons à même de comprendre que c'est sa volonté qui est à l'œuvre derrière de petites choses. C'est peut-être une idée qui germe dans l'esprit de votre ami, ou encore une rencontre dans la rue avec un autre chrétien, ou encore le fait qu'il vienne vous poser des questions sur votre foi. Dieu agit parfois discrètement. Et c'est par la prière que nous pouvons être davantage en communion avec le Seigneur et saisir ces petits riens qui déclenchent de grands miracles. Si cela ne vous intéresse pas d'admirer Dieu à l'œuvre, surtout ne priez pas. Vous risqueriez d'être surpris. L'Éternel nous a offert par Jésus-Christ la possibilité d'être en communion permanente avec lui. Nous sommes libres dans notre relation avec lui. Il n'y a ni jugement, ni condition de pureté, comme il en existait dans l'Ancienne Alliance. Par cette communion, nous pouvons prendre part à la réalisation de la volonté du Créateur du ciel et de la terre dans notre quotidien et dans celui de nos proches. Nous pouvons nous réjouir de ce qu'il fait et du fait qu'il le fait merveilleusement bien. En ce qui concerne ce dialogue entre Abraham et Dieu, retenons ceci. La prière sert à voir, comprendre et ainsi se réjouir des actions de Dieu. Dans mon message ce matin, j'ai peu parlé de toutes nos prières qui restent sans réponse, des sujets qui ne se débloquent pas. Je n'en parlerai pas davantage. La volonté de Dieu reste parfois un mystère. Quand notre prière semble être à la lumière de la Bible, dans la même direction que la volonté de Dieu et que l'Éternel n'agit pas, cela est difficile à accepter. Cependant, n'oublions pas qu'il est le Créateur de toutes choses. Notre statut de créature de Dieu ne nous permet pas de critiquer le Créateur sur sa volonté. Dans ce cas, la prière reste un moyen d'enseignement afin que le Seigneur nous aide à patienter et à persévérer dans notre foi en lui. Pour conclure et résumer, Elliot, prier, c'est le moyen que Dieu a donné aux hommes pour leur donner ce qu'il a prévu de leur donner. J'ai beaucoup donné, mais je répète. Prier, c'est le moyen que Dieu a donné aux hommes pour leur donner ce qu'il a prévu de leur donner. Prier Dieu, c'est un dialogue qui permet de comprendre davantage la volonté de Dieu. L'Éternel répondra à celui qui écoute et enseignera celui qui prie. Notre volonté d'homme, imparfaite et inconsistante, progressera pour embrasser la volonté parfaite et immuable de Dieu. Plus notre volonté et celle de l'Éternel seront en phase, plus nous nous réjouirons des œuvres que Dieu fait. Sa volonté s'accomplira et rien ne pourra l'en empêcher. Prier, c'est prendre l'opportunité de se réjouir de ce qu'il fait, de pourquoi il le fait, d'admirer le timing parfait du moment où il décide de le faire, de comprendre l'étendue de son action et finalement d'être enseigné toujours et encore sur ce qu'est la justice et la grâce parfaite de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide dans notre vie de prière. Amen. Mm-hmm.